Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mélanie Laurent a présenté son premier film américain en tant que réalisatrice au Festival de Deauville, sous l'œil de Sandrine Kiberlin, la présidente du jury de cette 44e édition. Stéphane Boutsock a rencontré les deux actrices. On le rejoint sur place dans un instant. Le musée Picasso Paris expose à partir d'aujourd'hui des œuvres maîtresses du peintre, pour certaines présentées pour la première fois dans la capitale. Cette expo s'appelle Picasso, chef-d'œuvre. À suivre, notre visite guidée en compagnie de Sophie Orange. De la musique classique avec Charlotte Latour et deux pianistes français de renommée mondiale, le parisien Michel Dalberto et le toulousain Bertrand Chamaillou. On découvrira leurs derniers enregistrements. Et puis à la télévision ce soir, le retour sur France 2 à 21h du magazine Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Direction la Normandie, donc pour commencer, où l'on retrouve Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Vous suivez depuis vendredi soir pour nous le 44e festival du film américain de Deauville. Et cette année, ce sont plutôt les Français les vedettes de l'événement. Expliquez-nous ça.
Alors, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais à part Morgan Freeman qui est attendu en fin de semaine et Joaquin Phoenix tout à l'heure, ce sont plutôt les stars tricolores qui occupent le tapis rouge. Il faut dire que le festival est désormais coincé entre ses homologues de Venise et surtout Toronto, je vais vous en reparler. Oui. L'escale deauvillaise n'est donc plus la priorité des grands studios américains, ce qui permet aussi de découvrir ici la production indépendante, parfois plus intéressante. Le cinéma américain fait en tout cas partie de la culture locale depuis maintenant 4 décennies, à l'image, vous le disiez, de la présidente du jury, Sandrine Kiberlin.
J'ai vécu à Deauville enfant, donc je faisais la queue comme tout le monde, j'avais pas d'accréditation et j'allais voir tous les films. J'ai demandé un seul autographe dans ma vie, c'était ici à Dustin Hoffman. Et ma sœur à Tex Avery, qui était venue, il lui avait fait un dessin qu'elle a toujours. Ma mère vient dans l'appartement de mes grands-parents, qui est le premier appartement qu'ils ont acheté quand ils sont revenus de Pologne, juifs polonais, qui se sont fait tout seuls. Ils ont acheté leur premier truc, c'était l'appartement dans lequel je ne vais plus depuis que mon père n'est plus là. Mais je venais souvent ici, de ma petite enfance jusqu'à mes 18 ans. Mon premier petit copain, je l'ai eu ici. Mon premier baiser, je l'ai vécu ici. J'ai une cabine devant la plage avec le seau, les pelles, ça me fait rire toute seule. L'épuisette de mon grand-père, qui n'est plus là malheureusement, mais tous les souvenirs sont là. Et quand j'ai dit à ma mère que j'étais présidente du jury du festival américain, elle a quand même eu une réaction en me disant « Mais tu te rends compte, si tes grands-parents étaient là, ce serait vraiment... » C'est vrai que ça m'émeut, forcément.
Sandrine Kiberlin, enfant du pays, entourée de ses jurés, notamment Sabine Azéma, Leïla Bekti ou Leïla Slimani, prépare le palmarès, ce sera révélé samedi soir. Je lui ai demandé si l'aventure d'une carrière aux États-Unis l'avait un jour tenté. Alors il y a bien eu un projet qui ne s'est pas concrétisé, mais à l'arrivée, écoutez, aucun regret.
Il n'y a pas de hasard, je pense qu'on est là où on a envie d'être. Moi, je suis tellement gâtée ici, et puis j'aime énormément rester spectatrice du cinéma américain. L'exotisme des filles, que ça reste exotique, quoi, que je reste loin de ce monde-là, qui fait un peu peur, parce que à moins d'avoir un film comme celui de Marion Cotillard qui fait le tour du monde, et d'un seul coup Audrey Tautou qui se retrouve propulsée dans Amélie Poulain, ces films qui font le tour du monde et tout à coup on devient connu et respecté aux États-Unis et on nous donne des rôles qui sont conséquents et où on défend autant de choses que dans les 6 beaux rôles qu'on nous offre en France, je vois pas pourquoi on irait s'expatrier là-bas pour avoir des rôles moins intéressants qu'ici. Donc j'ai aucune ambition et aucun fantasme d'être actrice aux États-Unis. My English is so bad. Et puis c'est bien de savoir où on a envie d'être, quoi.
Voilà donc pour la présidente du jury, mais vous avez aussi croisé une autre actrice française qui fait l'actualité de Deauville, Stéphane. Hein.
Oui, Mélanie Laurent, venue présenter ici son premier film américain de réalisatrice, ça s'appelle Galveston, thriller poisseux et sombre adapté d'un roman de l'auteur de la série True Detective, avec au casting Elle Fanning et Ben Foster, l'histoire de la cavale à travers le Texas d'un tueur à gages et d'une prostituée, film qui s'est presque imposé à Mélanie Laurent, qui n'avait pas à la base la réelle envie de tourner aux États-Unis.
Non. Je vais dire un fantasme plutôt qu'une envie. En fait, le Respire est sorti aux États-Unis et j'ai changé d'agent aux États-Unis puisque personne ne s'occupait de moi en fait là-bas vraiment. Et tout d'un coup, je suis rentrée chez des agents qui m'ont envoyé un scénario par semaine en proposition de réalisatrice. Des trucs énormes avec des scènes de guerre. Et je referme le scénario et je me dis, mais je suis incapable de filmer ça. Comment je vais filmer ça? Et un jour, je tombe sur ce film qui, a priori sur le papier, devrait me faire peur. Et je ne sais pas pourquoi, je lis, je vois Elle Fanning à la lecture, dans ma tête, je vois cette voiture sur la route, je vois une Amérique poisseuse, je lis qu'il va y avoir des trucs durs à faire, et je lis tout ça, mais ce que je vois me paraît non pas évident, mais tout d'un coup, je vois le film.
Galveston de Mélanie Laurent, ça sort au cinéma très vite, hein, le 10 octobre, on en reparlera, c'est très réussi. L'actrice a tourné aux États-Unis, elle, notamment pour Tarantino ou Angelina Jolie. Elle sera bientôt dans le nouveau film de Michael Bay pour Netflix. Le cinéma hollywoodien ne fait pourtant pas partie de ceux avec qui elle a grandi.
Vers 20 ans, le choc américain pour moi, c'était Boogie Night de Paul Thomas Anderson. Ça, ça m'a donné envie de faire du cinéma en tant que réalisatrice. Ce mélange entre Scorsese et Tarantino, American Beauty m'a fait rêver. Tout d'un coup, c'était de voir le côté génie dans certains plans et de se dire « Ah, oh, oh, il a mis sa caméra à tel endroit. Quel génie !» Voilà, ça c'est ce que je préfère au monde. Parce qu'après, il y a des films indépendants américains très noirs qui me donnent beaucoup d'émotions. Mais je trouve qu'on a quelque chose aussi dans notre cinéma français, dans la pure émotion et dans la délicatesse parfois, et dans l'intimité, où tout d'un coup, je me dis « On n'a pas à rougir de plein de scènes qu'on obtient beaucoup plus facilement qu'eux. » De scènes de vie.
Sandrine Kiberlin, Mélanie Laurent. Et aujourd'hui, c'est un autre Français qui fait l'événement à Deauville, Jacques Audiard. Oui. Il vient présenter Les Frères Sisters, son nouveau film, qui est un western époustouflant. Vraiment, c'est un des grands films de l'année, avec Joaquin Phoenix, donc, mais aussi Jack Gyllenhaal. Jacques Audiard part ensuite pour le festival de Toronto jeudi. Je le suivrai d'ailleurs là-bas pour RTL, parce Super. Que c'est bien la campagne des Oscars, carrément, qui débute pour Jacques Audiard aux États-Unis. Et avant cela, si vous voulez bien, je vous retrouve à Paris demain avec les nouveautés du jour.
Avec infiniment de plaisir, Stéphane. Très belle journée. On est à Deauville.
Merci.
À demain, donc.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Notre page télévision qui commence avec les audiences de la veille et Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Et qui est en tête, à votre avis ?
Je n'ai pas
dit. Vous l'amour ne savez pas. Eh bien, oui, L'amour est dans le pré sur M6. 4 400 000 téléspectateurs. Vraiment, c'est un très bon score. 20% du public sur la 2, infiniment plus en ménagère. C'est à peu près 400 000 de plus que Piégé sur TF1, qui avec 4 millions ne fait pas un score indigne. Meurtres au paradis est en troisième position. Et côté TNT, eh bien, c'est Taken sur W9 qui est largement en tête. 750 000 téléspectateurs.
Alors, nos programmes de ce soir. D'abord, une petite question. Vous aimez toujours autant le Good Doctor de TF1 ?
Le jeune chirurgien autiste de l'hôpital californien de San José, qui ressemble à rien mais se montre remarquable en tout. Voilà. Ah oui, l'adore. Franchement, c'est peu de le dire. Alors, c'est un surdoué inadapté, contrairement au surdoué très adapté que nous propose ce soir France 2. Vous avez vu cette transition ?
Je suppose que vous parlez des pouvoirs extraordinaires du corps humain de notre ami Michel Simès.
Exactement, consacré ce soir aux super pouvoirs, qu'ils soient physiques ou mentaux, de nos héros préférés, qu'ils soient comédiens comme Michel Bernier, imitateurs comme Laurent Gérard ou bien entendu sportifs. Outre le sens de l'effort et des sacrifices passionnés, il développe des capacités hors normes, comme par exemple la patineuse Nathalie Péchala, qui apprécie les échecs, selon elle, indispensables à toute réussite, ou Mbappé, 19 ans toujours, qui a dû mûrir vite pour cause d'encadrement sportif. À quel âge déjà ?
12 ans, 14 ans à Monaco, mais avant j'étais séparé à 12 ans et demi. Et les premières années, c'est souvent difficile parce qu'on est immature, on a besoin de ce cocon familial et on doit tout de suite créer une carapace de protection pour éviter tout ce qui se passe autour. Et quand tu es si jeune, c'est difficile, bien sûr. Si c'était pas un rêve, j'aurais pas réussi. Tout ce qui était entre guillemets des sacrifices pour certains ne l'était pas pour moi, c'était vraiment par amour que je le faisais. Les parents vous confient à une structure professionnelle pour bien sûr continuer l'apprentissage du foot, mais pour perfectionner l'homme aussi, le garçon qui est encore qu'un pré-ado à cette époque-là, donc c'est une éducation qui doit se poursuivre et c'est pour ça qu'il doit avoir un cadre qui permette aux enfants de s'épanouir.
Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il est intelligent ce garçon ?
Oui, tout à fait.
Combien il s'exprime bien ?
Exactement. Et là, il visitait des enfants malades. Alors, Teddy Riner, un autre qui s'exprime très bien, l'a été aussi encadré avec ses 2,5 m, ses 140 kilos, ses 49,5 de pointure et pourtant il a trouvé chaussure à son pied. Il aime l'effort, le plaisir dans l'effort, l'effort qui fait plaisir, il déteste aller au tapis. Un autre athlète prouve la force du mental. C'est Michael Jeremias, champion olympique en e-sport en tennis. Il ose le dire, sa vie est mieux depuis son accident qui a fait d'un fauteuil son nouvel allié.
Quand je l'ai vu, ce fauteuil, je ne l'ai pas vu comme un truc merde, il va falloir que je vive avec ça. Je l'ai vu comme un outil qui allait me permettre de sortir de cet environnement fermé, c'est-à-dire ma chambre d'hôpital. J'étais étudiant, je suis retourné à la fac, je faisais du sport, j'ai refait du sport. Le ski, j'ai mon accident le 7 février 2000. En février 2001, je suis à la montagne avec un pote à moi, Cyril, qui m'a appris à skier en fauteuil. Et on skie ensemble. Pourquoi pas faire du tennis ? Ça existe ? Eh ben, allons faire du tennis. J'en ai fait mon métier. Et on me voyait plus comme une personne handicapée d'abord, on me voyait comme un champion. Et donc, oui, je pense que ça a pu peut-être aider, ça a peut-être été un accélérateur aussi dans l'identité, dans l'image que je renvoyais.
Voilà, il arrive que le super-héros ait une vraie particularité physique, comme Martin Fourcade, mon héros multimédaillé du biathlon, dont le cœur au repos bat à 24 pulsations secondes seulement.
24 pulsations par minute.
Ouais, au repos minimum, en relevé du lit. Ma compagne n'aime pas être allongée sur mon torse. Elle dit qu'il y a trop de temps entre chaque battement, que ça la stresse. J'ai eu un cœur qui battait lentement dès le départ. Ensuite, c'est sûr qu'en pratiquant un sport d'endurance, ça a tendance à accentuer encore plus la chose. C'est un cœur de sportif. Il est 30 à 40% plus gros que le cœur d'une personne normale.
Vous avez dit 24 pulsations secondes, c'est 24 pulsations minute.
Minute, pardon. Oui, non, une seconde. Voilà. Et ça, il monte jusqu'à 185 en plein effort, voilà. Ce qui est aussi très peu. Alors, c'est ce qui s'appelle donc avoir un cœur gros comme ça. C'est aussi le cas au sens figuré de la metteuse en scène Muriel Beck, qui ouais. communique très bien avec les animaux en même temps quand on s'appelle Beck. Mais difficile de ne pas terminer par notre camarade Laurent Gérard, qui fascine cette spécialiste de la voix.
Laurent Gérard, c'est un grand sportif de la voix. Il a un larynx d'athlète. Donc forcément, son larynx est plus musclé et plus souple que le larynx du commun des mortels. Je pense que la prédisposition, elle est moins dans le larynx que dans la faculté de percevoir, de comprendre les éléments qui vont différencier la voix de quelqu'un de la voix de quelqu'un d'autre. L'intonation, c'est la mélodie de la voix.
Par exemple, le débit d'un journaliste comme Laurent Delahousse. Et puis, c'est le drame. Plus sur le... Pourquoi ? Chez le Silvestre. Je peux te citer l'exemple de Bruel.
Il y a beaucoup de pécadons au début.
Je me suis dit, Patrick, tu peux pas rester sans rien faire. J'ai changé de chaîne, j'ai commandé une pizza. J'ai pas pu y toucher. On est comme ça, nous, les artistes, on est sensibles. Dès qu'il y a la faim dans le monde, ça nous empêche de manger.
Voilà. Du coup, Miss Insimes, en conclusion, ne se sent plus de joie et ouvre un large bec pour imiter Johnny.
Bonjour, c'est Johnny.
Oui, il y a un peu de boulot quand même.
Non, alors ça, l'humour vaut mieux qu'il laisse sa scène de ménage sur M6, ça n'en pas douté.
Eh ben, ça tombe très bien parce qu'il y a ce soir sur M6 une spéciale qui montre nos couples de générations différentes au travail. Même Huguette et Raymond, ils aident la sœur d'Huguette à tenir une pompe à essence l'été, à leur façon bien sûr.
C'est long, hein.
Ça fait 10 minutes que j'attends ma monnaie, là.
10 minutes.
Oui, bah c'est bon, je finis mon rang, je suis à vous.
Non, sérieusement, si j'étais vous, je serais tombé.
Vous rigolez, je vais pas m'asseoir sur 5 euros parce qu'elle tricote quand même. Et vous, vous pouvez pas me la rendre, vous, la monnaie, là ?
Il touche à ma caisse, je t'enfonce mes aiguilles dans les gencives.
Voilà, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à partir surtout.
Merci Isabelle Morini-Bosque. Avec vous Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Nous allons prendre le chemin des musées avec la première grande exposition de la rentrée à Paris. Chef-d'œuvre commence aujourd'hui au musée Picasso avec des tableaux jamais vus en France.
Comme par exemple un des premiers tableaux de l'exposition, une vieille femme allongée, malade, un médecin à son chevet, une sœur infirmière tenant un enfant dans les bras, debout à côté de lui. Nous sommes effectivement en 1897. Ah bah qui a peint ce tableau classique aux couleurs grises et noires ?
Picasso ?
Picasso.
Incroyable.
On dirait pas en le voyant. Picasso n'a que 16 ans. Ce tableau s'appelle « Science et charité ». Il vient pour la première fois à Paris en provenance du musée de Picasso de Barcelone. Tableau méconnu pour le grand public qui ne ressemble pas du tout aux autres œuvres qu'on a en tête quand on pense à Picasso. Un tableau qui a une histoire racontée par Émilie Bouvard, conservatrice au musée Picasso et commissaire de cette exposition.
Picasso avait un père qui était professeur de peinture et qui n'avait pas eu certains prix. Et donc, concentré sur l'idée que son fils devait pouvoir faire à son tour une carrière académique. Et donc, il pousse son fils à faire une peinture tout à fait dans le style qui plaisait à l'époque, réalisme social, inspiré de scènes d'hôpital. Il a eu une mention à l'Exposition Générale des Beaux-Arts de Madrid. Picasso a été, paraît-il, baptisé au champagne. Tu seras un grand peintre, mon fils. Picasso montre qu'il est capable d'un chef-d'œuvre académique. C'est ce dont il va partir pour aller ailleurs.
Et en face de ce tableau, dans l'exposition, une grande radio du tableau, parce qu'on passe les tableaux au rayon X pour voir ce qu'il y a derrière ce qu'on voit nous. Et là, on voit vraiment le détail, les coulisses, les dessous d'une œuvre, et c'est très intéressant. Pour moi, en tout cas, c'est l'une des œuvres les plus importantes de cette exposition qui cherche à montrer comment un tableau ou une sculpture, d'ailleurs, devient un chef-d'œuvre. Être un génie, comme Picasso, suffit-il à créer des chefs-d'œuvre?
Alors, quels autres chefs-d'œuvre, justement, sont présentés au musée Picasso?
Alors, la chèvre, icône du travail de Picasso, une sculpture dont le ventre est un panier en osier, fabriqué par Picasso lorsqu'il s'était installé à Antibes en 1946. Il l'a décliné en estampes, en dessin, en peinture, en photo. Et c'est un chef-d'œuvre, en tout cas, c'est un animal clé du langage de Picasso. Autre exemple, les arlequins qui traversent toute l'œuvre de Picasso. Le premier, l'arlequin assis, peint en 1923, quand il sort de l'atelier de Picasso, il passe totalement inaperçu, jusqu'à ce que son propriétaire, un collectionneur ruiné qu'il avait laissé au musée de Bâle, veuille le vendre en 1967. Le gouvernement local emprunte pour tenter de l'acheter, les citoyens se mobilisent, grande fête populaire pour réunir de l'argent. Finalement, l'arlequin reste à Bâle et devient à ce moment-là un chef-d'œuvre. Je vais vous parler aussi des Demoiselles d'Avignon. Alors là, évidemment, tout le monde connaît ce tableau. Œuvre qui révolutionne la peinture en 1907, considérée comme l'acte de naissance du cubisme. Mais on ne sait moins qu'à l'époque, personne ne s'intéresse aux Demoiselles d'Avignon. C'est un tableau comme un autre, en fait. Il a fallu qu'André Breton le remarque, puis un marchand d'art. Et c'est finalement en 1900. 39, donc 32 ans après, que ce tableau devient un chef-d'œuvre mondialement connu lorsqu'il franchit les portes du MoMA, Musée d'Art Moderne à New York.
Bon, Picasso avait conscience de peindre des chefs-d'œuvre ?
C'est la grande question. Un journaliste l'a posé en 1966. Voilà la réponse du grand maître Picasso.
C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Et c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas ? C'était une grande catastrophe. C'est personnel, n'est-ce pas ? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même.
Picasso et les chefs-d'œuvre, réponse complétée par l'une des meilleures spécialistes françaises de Picasso. On retrouve Émilie Bouvard.
On sait que Picasso était très exigeant par rapport à sa création. Il a une création prolifique, mais ça ne signifie pas qu'il est négligent. Donc Picasso, il est au travail, des heures et des heures par jour. Il y a une idée que l'ensemble doit être réussi, comme un chef-d'œuvre, et pas les œuvres isolées. Donc on voudrait que le public se rende compte qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre une fois pour toutes. Tous ces chefs-d'œuvre, ils sont construits par les regards des sociétés qui les accueillent. C'est ça qui fait qu'on peut encore raconter beaucoup d'histoires sur Picasso.
Un chef-d'œuvre même avec un petit rien. Vous verrez au premier étage une petite salle très émouvante, d'une soixantaine d'objets, ou même un simple papier déchiré devient un magnifique oiseau.
Sophie, si je peux me permettre, Picasso Allez-y. A peut-être signé beaucoup de chefs-d'œuvre, mais ouais. Il y a quand même beaucoup d'expositions consacrées à Picasso.
Je vous sens un peu lassée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Picasso.
Parfois, c'est épuisant.
Et bah, écoutez, c'est pas fini.
À Evian.
C'est pas fini. Et à Evian, il y en a une quarantaine depuis un an et demi. Et il y en aura une dans 15 jours à Orsay, cette fois-ci sur la période rose et bleu. Près de 5000 expositions consacrées à Picasso en un siècle. Mais ce n'est jamais trop pour Colline Zellal, conservatrice au musée Picasso.
On ne peut jamais s'ennuyer quand on travaille sur Picasso. C'est un artiste qui est en permanence dans le renouvellement, qui traverse en plus presque un siècle de création. Donc je pense que non, il n'y a pas trop d'expo Picasso. Je dirais plutôt que c'est la richesse de cet artiste qui permet autant d'expositions, autant de sujets, à chaque fois inédits, différents, et qui permet de renouveler le regard en permanence sur sa création.
Elle vous a convaincu, Yves ?
Non, mais je pense que c'est son œuvre qui est épuisante au bon sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il a été tellement prolifique,
des milliers,
c'est incroyable.
En tout cas, allez voir à partir d'aujourd'hui, chef-d'œuvre, c'est au musée Picasso à Paris.
Le piano et la musique classique dans un instant avec Charlotte Latour et deux grands pianistes français. Restez avec nous.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
Musique classique maintenant avec vous, Charlotte Latour. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez de deux pianistes français aux carrières internationales. On commence par Michel D'Alberto. Il sort un coffret de 17 CD.
The Making of a Musician, c'est le nom du coffret. Le concerto numéro 25 en ut majeur de Mozart, enregistré en 1980 avec le chef suisse Armin Jordan et l'orchestre de chambre de Lausanne. Michel D'Alberto est né à Paris en 1955. Il a commencé par jouer sur un piano jouet. Il avait 3 ans. Il a intégré 10 ans plus tard le Conservatoire de Paris avant de recevoir plusieurs prestigieux prix internationaux à 20 ans. Immédiatement après viennent les enregistrements d'albums. Le premier fut consacré justement au concerto de Mozart. Le tout en n'étant même pas issu d'une famille de musiciens d'ailleurs. Aujourd'hui, il joue aussi bien en solo avec orchestre qu'en duo, en trio et accompagne aussi des chanteurs. On retrouve justement de grands noms dans ce coffret, comme Barbara Hendricks, avec qui il a enregistré en 1989 un album Forêt. Voici Clair de lune sur un poème de Verlaine. Michel D'Alberto impressionne par sa mémoire prodigieuse, les partitions, les dates, il se souvient de tout par cœur. Pudique, il se fait discret dans les médias, mais remplit les salles de concert avec son répertoire considérable. Particulièrement friand des compositeurs français et germaniques, il fut l'un des rares pianistes dans les années 70-80 à vouloir enregistrer l'intégrale pour piano du premier grand romantique à ses yeux, Schubert. « La sonate numéro 20 en la majeure, enregistrée en 1982. En bon boulimique de travail qu'il est, Michel D'Alberto enseigne aussi au CNSM, le Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris, depuis 7 ans. Il a dirigé des festivals, présidé un concours et s'est lancé dans la direction d'orchestre. Un pianiste d'exception, au jeu élégant, aux notes ciselées, toujours parfaitement articulées, jamais aux dépens de l'intensité. Son coffret de Making of a Musician, 17 CD, c'est donc l'occasion de revenir sur le parcours d'un maître de la poésie et il paraît chez Erato vendredi.
On passe donc à un autre musicien, lui aussi tout en subtilité, digne héritier du précédent. Il s'agit de Bertrand Chamaillou.
Le brillant pianiste toulousain s'est lancé dans un programme sans sens. Alors là, on ne parle pas du carnaval des animaux, non, car Bertrand Chamaillou a opté, lui, pour des... Oui, bah oui, on l'entend souvent, c'est vrai. Il a opté justement pour des œuvres moins souvent interprétées, les concertos pour piano et orchestre numéro 2 et numéro 5, composés à 30 ans d'écart, extrait du numéro 5 surnommé l'Égyptien. Très bien, un peu plus longtemps. Hein. Oui. Voilà. Et c'est flamboyant, c'est plein de complexités techniques comme Bertrand Chamaillou les aime. Il se balade avec virtuosité dans l'imagination débordante et parfois un peu délirante de Saint-Saëns. Oui. Aux côtés de l'Orchestre National de France et le chef Emmanuel Krivine, un nouvel album remarquable, plein de couleurs, apparaître lui aussi vendredi chez Erato.
Eh bien, dites donc, on a passé un bon moment hein, avec nos deux pianistes français. Dans quelques instants, on va se dire au revoir, se séparer, mais nous accueillons avec grand plaisir Julien Courbet. Merci d'écouter RTL, à tout de suite. Merci à mes camarades Sophie Orange, Isabelle Morini-Bosque, Charlotte Latour. Merci à Caroline Alexis qui nous a accompagnés comme chaque jour dans cette matinée. À demain. Et puis, avant de donner le témoin, si je puis dire, à Julien Courbet, moi je vous rappelle que RTL a reçu hier soir le prix de la radio de l'année décerné par CB News et que nous sommes ainsi primés pour la deuxième année consécutive. Vous êtes bien entendu inclus dans ce palmarès exceptionnel, Julien.
Merci CB News. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que prononcer comme ça, dites-nous, c'est bonne news.
C'est bonne news.
C'est une belle récompense, en tout cas. Hein. On y est un peu pour quelque chose. Alors, il a été stipulé que le prix a été donné à 99% pour la radio, sauf le passage antenne que nous faisons chaque jour, qui a failli nous le faire perdre. Mais malgré tout, ils ont
Mais moi, je ne vois pas de raison de l'améliorer. Il me convient comme ça.
Bonne journée, Moïse.
Bonne journée, bonne émission.
Et merci, c'est bonne news.